sujet de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Quand on regarde l'étendue de la pandémie sur les cartes et que l'on voit que nos voisins du Sud, dont nous sommes les principaux partenaires au point de vue économique, et que l'on voit les coûts sociaux que nous avons mis en place au fédéral, 174 milliards à ce moment-ci d'aide de soutien par la PCU, etc., etc., que l'on regarde également les pertes d'emplois qui peuvent découler de cette fin de pandémie, de la fermeture des commerces, des reprises lentes de l'économie en général, c'est pas pour demain un retour à la normale. Est-ce qu'après la PCU, qui est prévue se terminer à l'automne, on a les moyens de faire ce que l'on pense comme un des scénarios possibles, un genre de revenu de base garanti pour 6 mois pour l'ensemble des gens au Canada? Ça coûterait, selon les prévisions, environ 98 milliards de dollars de plus qu'on rajoute sur le 174 milliards, plus la dette antécédente qui n'est pas encore payée. Est-ce qu'on est vraiment au-delà de nos capacités économiques? Jean-Michel Cousineau est économiste et professeur titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Il est spécialiste en économie du travail, en économétrie et en politique publique. Bonjour, professeur.
Bonjour, M. Mongrain.
Dites-moi, je regarde cela et avant même là, qu'on ait quelques pandémies que ce soit, on se disait les dettes d'un gouvernement, c'est important, c'est des générations à venir qui vont avoir à payer pour ça, la fiscalité va être modifiée, ce que nous avions comme habitude de connaître dans la fiscalité pourrait être entièrement modifié. Qu'est-ce qui arrive avec ce que nous avons présentement rajouté à notre endettement collectif au pays?
Mais il arrive que, sous le coup d'une maladie qui est très grave et très répandue, il y a des millions de personnes, québécoises, canadiennes, qui ont perdu leurs revenus. Et je pense que c'est une responsabilité morale première pour une société qui en a les moyens, on pourra en reparler tout à l'heure,
oui.
De s'assurer qu'il n'y a personne qui crève de faim. Là. Ça serait la honte absolue, là. Mm-hmm. Et ça serait manquer à nos responsabilités humanitaires premières. Donc, on a inventé la PCU, puis d'autres programmes du même genre, des programmes pour les entreprises, pour essayer, ça n'existe pas, cette chose-là. Mm-hmm. On a réussi certaines choses, et ça va moins bien sur d'autres, la motivation au travail dont on parle, là, pour les jeunes et tout ça.
Oui, c'est sûr qu'il y a des effets pervers à cette aide-là.
Oui, c'est ça, il n'y en a pas de solution parfaite. Mm-hmm. Mais il semble que le vaccin ne sera pas arrivé là, au mois d'octobre et qu'on va avoir encore des difficultés. Et plus ça va, ben plus les coûts s'accumulent. Puis là, ça devient plus aussi drôle que ça devait l'être. Là. Jusqu'à présent, au point de vue économique, on pouvait absorber ce qui est annoncé. Là.
On est capable de le faire? Ça, je m'adresse au professeur en économie. Là je m'adresse au vulgarisateur. Je dis, est-ce que le Canada est capable de supporter l'endettement qui se fait presque à poche percée?
Bon, alors, ben là, c'est parce que des fois, peut-être, il y a des choses qu'on est capable, mais si c'est mal dépensé, c'est un autre problème.
Oui.
C'est plutôt ça, là. Moi, c'est pas le montant absolu, nécessairement, qui est vraiment le problème majeur. C'est la façon dont c'est fait. C'est pas bien fait, c'est du gaspillage. Maintenant, donc, moi, mon avis, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à cette nouvelle, là, d'un nouveau coût de 98 milliards, il y a un bon consensus chez les économistes comme quoi on était capable d'absorber. Mais là, on est en train de rajouter un autre 98 milliards. Ça devient plus périlleux comme situation. Parce que on avait un super bon état de financement. On était parmi les meilleurs au monde en termes de dette publique. Au Québec, on avait une réserve là, marge de crédit, tout ça. Maintenant, là, c'est ça, elle n'est pas finie, mais par contre, ce qui est proposé là, dans la mesure de revenu minimum garanti, elle est meilleure que celle de la PCU. Pourquoi elle est meilleure? C'est parce que elle diminue au fur et à mesure que l'individu va chercher des revenus, elle diminue progressivement. Mm-hmm. Et non pas 100% se faire confisquer complètement toute sa prestation dès qu'on va travailler plus que 1 000 $. Donc, vous voyez, il y a une amélioration dans la formule. Alors, c'est de l'argent qui est mieux dépensé, on pourrait dire.
D'accord. Si, professeur Cousineau, je regarde ça, comment on calcule qu'un pays est capable de rencontrer une telle dette? Puis on me dit toujours qu'il y a un ratio là qu'on établit entre le produit intérieur brut et le taux d'endettement. Quel est cet équilibre qu'il faut maintenir pour se dire on est capable de faire face à un avenir d'endettement?
Oui, je pense qu'il y a deux critères là, qui sont retenu. Celui du ratio de la dette sur le PIB, permettez-moi d'être un peu sceptique. C'est sorti là que c'était à un moment donné 90%. Puis moi, je ne crois pas beaucoup à ce truc-là. Ce qui est grave là, pour le gouvernement, c'est son service de la dette. S'il est obligé de consacrer plus que 20% de ce qu'il collecte en impôts à seulement payer des intérêts, c'est menaçant. C'est menaçant parce qu'il va être obligé d'augmenter les impôts, il va être obligé de réduire les dépenses, et là, l'équilibre économique peut être déstabilisé.
Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on en est là?
Bien là, les chiffres, on ne les a pas pour tout faire ces
calculs-là.
Ces calculs, mais à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est correct. Parce que si on se rend à 40%, ben là, c'est certain que l'économie, c'est pas une probabilité, l'économie, c'est certain qu'elle est déstabilisée, puis là, c'est un effondrement social.
Donc, 20% pour vous, c'est le point de bascule.
Oui, là, c'est le point, là, faut sonner l'alerte, puis il faut prendre des décisions qui menacent un peu les grands équilibres. L'autre élément, c'est qu'on peut calculer aussi, si on a les chiffres, là, on devrait commencer à en avoir cet après-midi, à 13h40.
Oui, avec l'exposé du ministre.
Avec ces chiffres-là, on peut évaluer si on est sur une pente où la dette va toujours augmenter. Indépendamment de ce qui va se passer, la tendance fait qu'on a perdu le contrôle.
Il y a une école
L'élan qui lui est donné va faire ça.
D'accord.
Alors ça, c'est un autre critère. Alors tous ces critères-là étaient largement satisfaits avant la COVID.
Il y a une école de pensée où c'est la réalité, je ne sais pas, qui dit « Nous ne payons jamais la dette. C'est l'intérêt de la dette qu'il faut payer pour garder sa cote d'appréciation. »
Oui.
Est-ce que,
comme je vous dis, là, c'est parce que le pourcentage, c'est que si vous envoyez 1 000 $ d'impôts au gouvernement,
oui,
et puis il vous donne pour 9 500 de services, puis vous payez 500 $ de dette, de services de dette, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous commencez à recevoir seulement 8 000 $ pour 10 000 $, là, ça va moins bien. Puis si vous recevez plus rien que 60% de ce que c'est que vous payez, là, ça va très mal.
Nous autres,
on
regarde l'économie d'un pays un petit peu à partir de la façon dont on gère notre propre budget personnel. Mais qu'est-ce qui arrive? Un gouvernement ne fait pas faillite. Un pays ne fait-il faillite? Comment on finance ça?
Ben, c'est ça. Il y a deux choses. Un gouvernement, ça ne meurt pas. Nous, on a une fin de vie, puis il faut régler les dettes en fin de vie. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, en principe, ça ne meurt pas, donc il n'est pas obligé jamais de payer sa dette. Et puis le poids de la dette, il diminue toujours au fur et à mesure qu'on s'enrichit, parce que le ratio là, de la dette sur nos revenus automatiquement tendance à diminuer. Ça, c'est le beau côté, mais vous l'avez dit, là. Il faut payer les intérêts, là. Ça ressemble un peu à l'individu, tu sais. J'agrandis ma maison, mais une autre chambre, ça prend de la valeur. Mm-hmm. Mais à chaque mois, il faut payer le banquier.
Et qui est notre banquier?
Ben là, les banquiers, c'est les prêts qu'on fait à l'extérieur du pays, les emprunts que le gouvernement fait auprès des gens. Puis là, ben, de ce temps-ci, là, c'est la Banque du Canada qui imprime de l'argent.
Hey, ça me fait penser à Réal Cahouette, imprimer de l'argent.
Oui, c'est ça qu'on fait. Tu sais, le gouvernement dit, j'ai besoin de 8 milliards pour payer ma PCU. Bien, la Banque du Canada, elle dit, tiens, bien là, je l'ai déposé, ton 8 milliards, là, les caisses populaires de Jardin à la Banque Royale, tu peux faire tes chèques, ça va passer. Tu me dois 8 milliards.
Est-ce que ça fait une dépréciation de l'argent? Si on met plus d'argent sur le marché, l'argent vaut moins cher? Comment ça marche?
Oui, c'est à ça que ça conduit. Mais là, écoutez, on commence à avoir de l'expérience. Il y a eu en 2009 des opérations de ce style-là. Mm-hmm. Et puis, il y a une façon, parce que là, c'est comme inonder une terre, si on veut,
ben oui.
de sous. Et tant qu'il y a du chômage, tout ça, cet argent-là reste productif. Mais à partir du moment où l'activité économique revient, ben là, il faut qu'on trouve le moyen d'enlever l'eau sur le dessus de l'inondation pour pas que ça crée ce que vous me dites de l'inflation.
Ah, parce que ça, c'est de l'inflation si je perds la valeur.
Ah, c'est la pure inflation, ça. Tu sais, si vous multipliez par 10 le nombre de papiers-monnaie, mm-hmm. vous avez la même quantité de biens, les prix viennent d'augmenter de 10. Mais il y a du lousse.
Il y a du lousse, il nous reste du lousse.
Ouais. Il y a du lousse, puis il faut être très habile. Hein?
Oui. Est-ce qu'un politicien, selon vous, a vraiment une influence sur ses équilibres économiques ou cette santé économique-là? Parce qu'on les sent toujours de dire, depuis que je suis arrivé au pouvoir, ça va mieux. Tu sais, notre voisin du Sud, là, il est en train de nous dire que ça va bien, puis c'est toujours grâce à lui. J'ai toujours entendu les politiciens ici, depuis que nous sommes là, ça a augmenté, ça va mieux, ça va mieux. Est-ce qu'il y a vraiment une influence politique sur les rendements économiques, étant donné qu'on est interliés dans la mondialisation et dans l'économie?
Oui, on peut être sceptique un peu, mais même cynique, mais je retirerai mes paroles ici. Je ne suis pas d'accord. Et moi, j'ai l'impression qu'un gouvernement peut plus facilement nuire à l'économie qu'à l'aider. Parce que l'économie en soi, naturellement, ça veut progresser, ça veut avancer, les gens sont dynamiques et tout ça. Puis là, un gouvernement peut prendre des décisions qui empêchent ces initiatives, ce développement.
OK. Fait qu'ils sont pas si importants que ça pour ce qui est de la capacité d'augmenter, mais ils peuvent prendre des politiques qui nuisent.
C'est mon expérience.
Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Cousineau, économiste et professeur titulaire. Une belle vulgarisation, ça m'a beaucoup éclairé. J'espère que ça a fait la même chose pour nos éditeurs. Et vos étudiants doivent être contents de vous avoir. Merci beaucoup, monsieur le professeur.
Merci infiniment, monsieur Mongrain.
Merci, au revoir. Jean-Michel Cousineau, économiste, professeur titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, spécialiste en économie du travail et en économétrie et en politique publique.